Il était annoncé, pas en Égypte obligatoirement, mais lors de Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, Abraham Avinu avait subi en quelque sorte une espèce de torpeur, etc. Et Hachem lui avait parlé. Et vous vous souvenez, il lui avait donné le choix entre, on avait dit, entre la mort et l'exil. Il avait choisi l'exil. Et Hachem lui avait dit, tes descendants, ils seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. On va les faire souffrir, etc. Et cette annonce-là, eh bien, il semble que ce soit en Égypte, qu'elle se soit réalisée. Concrètement, ça a eu lieu, et ça a eu lieu en Égypte. Alors, on n'est pas resté 400 ans en Égypte, comme tout le monde sait, on y est resté 210 ans, mais ces 210 ans, c'était 210 ans non pas d'esclavage ordinaire ou mais de torture, littéralement. Alors, on peut penser que ces 210 de torture, ça vaut 400 d'un esclavage normal. Mais il y a une autre explication, celle que tout le monde connaît, qui est une explication qu'on doit au Arizal. Le Arizal, lui, il a dit qu'en vérité, on est sorti prématurément. Et la raison pour laquelle on est sorti prématurément, tout le monde le sait, c'est qu'on avait tellement dégringolé. Alors la dégringolade, elle peut se lire dans le texte directement, c'est-à-dire quand Hachem a proposé la sortie, il n'y a qu'un cinquième des gens qui ont dit oui. Donc si on était resté plus longtemps, probablement ben, il n'y avait plus personne pour sortir. Et dans le langage du Arizal, ça se dit un peu différemment. Ça se dit qu'on était arrivé au 49e degré de Touma, là. Et si on était arrivé, si on avait touché le 50e dans cette dégradation, le 50e, c'est la mort. Donc, il n'y aurait plus tout plein d'Israël. Donc, tout le projet divin aurait été à l'eau. Donc, il était impératif qu'on sorte à ce moment-là. Et si on est sorti prématurément, alors la question va se poser, est-ce que Hachem nous a fait un cadeau? Bon, c'est tout. On aurait dû rester 400 ans, mais on n'a pas supporté de rester plus que 210. Et puis tant pis, bon, voilà, c'est comme ça. Ou bien non. Les 190 ans qui restaient, ben, il faudra les vivre dans un état d'esclavage relatif, etc. Et ça va donner les fameux quatre exils qui vont avoir lieu pour le clan d'Israël. Mais on voit tout de suite que donc le galout de Mitzrayim et les quatre exils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Du coup, les exils, les quatre exils, on sait, ils vont être présentés comme des exils qui sont suite à des fautes que les Bnei Israël ont faites. Celui de Mitzrayim, on ne peut pas dire qu'il est la conséquence d'une faute. Il n'y avait pas de clan Israël. Le clan Israël n'a pas fait de faute. Il n'existait même pas. Et donc là, on a ce fameux paradoxe, c'est que on est toujours été un peu spéciaux, mais là, en l'occurrence, on est en exil avant d'être un peuple. Et même, c'est dans l'exil qu'on s'est constitué pas vraiment un peuple, mais un embryon de peuple qui va sortir d'Égypte et qui va devenir un peuple au pied du Sinaï. OK, ça c'est ce qu'on sait, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a un Midrash, il se trouve à deux endroits, il se trouve dans Midrash Rabbah, dans Parchat Emor, mais il est un petit peu plus complet dans le Tanhuma. Dans le Tanhuma, il est dans Parshat Vayetse, numéro 2 de Parshat Vayetse, du Midrash Tanhuma. Et Comme vous savez, dans Parshat Vayetse, le grand sujet, pas en tout cas, c'est le rêve de Yaakov Avinu, le fameux rêve de l'échelle, l'échelle de Yaakov. Et donc, le Midrash parle de cela. Le Midrash y parle. Vayachalom ve'ineh sulam. Yaakov s'est couché et il a rêvé. Et voici une échelle qui est posée sur la terre et dont le sommet arrive au ciel. Et Malaché Elohim olim ve'yordim bo. Et des anges d'Elohim montent et descendent le long de cette échelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Malaché Elohim? Eh bien, il y a plusieurs explications. Et le Midrash, il va en choisir une. Et la voilà. Voilà, c'est assez connu. Amar Shmuel bar Nachman, Elo, ces Malachim-là, elles sont ce qu'on appelle Sarei Umot Ha'olam. Littéralement, ça veut dire ils sont les princes des nations du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ces princes des nations du monde? À d'autres endroits, quand on parle de ces malachim-là, on les appelle des Elohim. C'est les Elohim des nations du monde. Chaque, disons en tout cas le Ramchal et d'autres, disent que chaque, on va bien prendre du Arizal, chaque peuple a un Elohim. Ou si vous voulez, chaque peuple a un tsar, un prince. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est ce qu'il représente dans le monde d'en haut, dans le monde des valeurs en haut. C'est pour ça qu'il l'appelait Mala. Et concrètement, moi personnellement, quand j'essaie de me représenter ça, je considère que le Mala propre de chaque peuple, c'est en quelque sorte sa culture. C'est-à-dire, c'est le fait que chaque peuple a un ensemble de qualités, de défauts qui le caractérisent. Et ces qualités et ces défauts, on peut parler comme ça, font que ce peuple-là, il mange de cette manière-là, il chante de cette manière-là, il danse de cette manière-là, il a le rapport entre les hommes et les femmes dans cette. Ce peuple sont de ce type-là. Je sais pas, tout ce qu'ils font, ils le font à leur manière. C'est la spécificité. Les Français, ils font les choses d'une certaine manière, les Allemands d'une autre manière, les Slaves d'une troisième manière, etc. Tout est différent. Alors, ces malachim qui montent, qui descendent, ce ne sont pas des malachim de toutes les nations. Ce sont des malachim, des princes, des dieux des différentes nations, de différentes nations. Mais voilà, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Melamed. Ça nous enseigne, ce midrash-là, enfin ce passouk nous dit, pardon, Shehera lo Akadosh Baruch Hu le'avinu Yaakov. Akadosh Baruch Hu a montré à notre ancêtre Yaakov, il a montré Sarah shel Bavel. Il lui a montré le prince de Bavel, qui lui a monté sur cette échelle, il est monté de 70 l'échelon. Et puis ensuite, il est redescendu. Et Hachem a montré aussi à Yaakov le sar de Madaï, les Mèdes. Lui, il est monté 52 échelons et il est redescendu. Le sar de Yavan, qui montait 100 échelons et il est redescendu. Et d'Édom, alors là, lui, Edom, c'est un peu spécial. Parce que le tsar des Sabes, de Édom des Sabes, donc, Allah, Velo Yada Kama. Et Jacob, il le voit monter, il le voit monter, et il a l'air de monter sans fin. Beotasha, à ce moment-là, Nityara Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a eu peur. Ve'amar, et il a dit, Shema Lazé En Lo Yerida. Est-ce que ça veut dire que ce prince-là, il ne redescend jamais? Il a bien compris que ce qui nous est montré, c'est que l'empire babylonien, tout cas dans sa phase de domination d'Israël, ça va durer 70 ans, les Mèdes 52, les Grecs 100, et la domination d'Israël par Édom, Jacob s'est demandé, est-ce que c'est une domination éternelle, à laquelle je vais devoir faire face en quelque sorte. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Alors à cette interrogation, Hachem a répondu, Ve'ata al tira avdi Yaakov, ve'al techat Israël. Il lui a dit, maintenant toi, Yaakov, n'aie pas peur. Israël ne craint rien. C'est Hachem qui parle, il lui dit, ne crains rien, il n'y a pas lieu de craindre. Essayez d'ouvrir. Mon téléphone veut bien. Il est sur la deuxième porte. Ah non, voilà. Là, ça ne s'ouvre pas. Bonsoir. Donc il n'est pas peur. Parce que tu vas y Afilou Ataroé Olé Etzli. Tu as l'impression qu'il monte sans fin, c'est-à-dire il va arriver jusqu'à moi, jusqu'à Hachem, en fait. Mais Misham Ani Morido. Quelle que soit la hauteur à laquelle il s'élève, moi, dit Hachem à Yaakov, moi je le ferai descendre. Et le Midrash s'appuie là-dessus sur un verset du Navi Ovadia. Ovadia, c'est un des, qu'on appelle les petits prophètes. Ils ne sont pas plus petits que les autres, mais c'est seulement qu'on a moins d'écrits de leur part. Et Ovadia, c'est celui dont on a le moins d'écrits parce qu'il y a un seul chapitre. Et Ovadia était l'intendant du roi Achav. Achav, c'est un drôle de personnage. C'était un roi d'Israël, donc très puissant, très très puissant. Il est marié avec la fameuse Isabelle, quoi, Isabelle. Et une des choses qu'on sait, dans le Sefer Malachim, on est très sévère sur Achav. qui était idolâtre, etc., dire des choses. Il y a d'autres textes qui ne sont pas aussi sévères que ça. Et en particulier, il y a un chazal qui dit que quand David HaMelech faisait des guerres, il y avait des gens qui mouraient. Ils gagnaient la guerre ou pas, mais en tout cas, il y avait des gens qui mouraient. Quand Achab faisait des guerres, il n'y avait pas de mort et il gagnait les guerres. Et on dit pourquoi? Parce que du temps d'Achab, il n'y avait pas de délateur. Personne, il n'y avait pas de lashon hara. Chez Achab, quand on dit qu'il était idolâtre et tout ce que vous voulez, pas de délateur. Alors que chez David, au temps de David, il y avait des délateurs. Quand on dit qu'il n'y avait pas de délateur, le grand prophète, il y avait Ovadia qui était l'intendant d'Achav, mais qui était aussi Navi, et que Achav savait qu'il était un Navi d'Hachem, ils avaient tous des prophètes, des vrais, des faux, des prophètes qui prophétisaient au nom des idoles, et des prophètes qui prophétisaient au nom d'Hachem et qui disaient ce qu'ils voulaient au nom d'Hachem. Et le grand prophète au temps de Ahab, c'est Eliyahu HaNavi. Et Eliyahu HaNavi, il était recherché par les polices d'Ahab et Isabel. Et Ovadia, et il y avait d'autres prophètes, des prophètes sérieux, et Ovadia, il a caché 2 fois 50 prophètes dans des cavernes. Et ils ont été nourris par le peuple. Personne n'a jamais rien dit. Donc, je veux dire, tout le monde savait que le roi le cherchait et recherchait. Et les gens ont nourri ces prophètes pendant longtemps. Personne n'a jamais rien dit. C'est compliqué. C'est des figures un peu compliquées. Hein?
Elle les a pas fait assassiner, les gens.
Elle les a pas attrapés. Donc il y a un passouk dans Vadia qui est la base de ce que, enfin la base de ce que le Midrash fait dire à Hachem, à Yaakov, Im takbia kanesher, si tu t'élèves aussi haut que l'aigle, et si tu mets ton nid parmi les étoiles, de là-haut, je te ferai descendre, de Oum Hachem, parole d'Hachem. Alors, Rav Brechia, au nom de Rav Chelbo, Rav Shmuel Bar Yosena, ils ont dit, Melamed, cette histoire de l'échelle et des malachim qui montent, descendent, etc., c'est Melamed chez Rehu HaKadosh Baruch Hu ou le Yaakov Avinu, Sarah chez Babel, Ole Veyored, chez le Madaï, Ole Veyored, chez Yavan, Ole Veyored, chez l'Edom, Ole Veyored, finalement. Puisque Hachem a dit, je le ferai descendre. Et là, ça commence, ça c'est la deuxième partie. La première partie, elle est très très connue. Deuxième partie, un peu moins connue. Omar le Akadosh Baruch Hu le Yaakov. Hashem a dit à Yaakov, Lama enataole, pourquoi est-ce que toi tu ne montres pas le long de cette échelle? Dans le Midrash correspondant, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué un peu plus marqué, Olé, allez, pardon. Je me l'ai dit, monte. Mais c'est la même chose. Beotasha, c'est important. À ce moment-là, Nityara Avinu Yaakov Ve'amar. Yaakov a eu peur et il a dit que Shem Sheyesh La'elu Irida, de la même manière que ces peuples-là montent et ensuite ils retombent, Kach Ani Yesh Irida. Ben, moi aussi, si je monte, je vais aussi retomber. peut dire, Jacob, il n'a pas pensé qu'il avait un statut à part. Il pense que, voilà, quand on monte sur cette échelle, c'est tout, ça indique qu'on monte, mais ensuite on disparaît. Donc c'est un peu étrange parce que cette situation de monter et disparaître, c'est justement ce qu'Abraham n'a pas voulu. C'est la fameuse mort chez Abraham. Donc quelque part, c'est comme si ça se rejoue chez Yaakov Avinu d'une autre manière. Yaakov Avinu, il a le même problème et il dit, ben, les autres peuples, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça, un peuple, ça peut avoir une trajectoire ascendante, ça atteint son sommet et puis ensuite ça redescend et on disparaît. Un peuple, il a une durée de vie limitée dans le monde. Et donc, dis, mais moi, je veux pas. Je veux pas d'une durée de vie limitée. Quelque part, si je me mets moi aussi dans l'échelle, ben, j'aurai le même sort que les autres. Et donc, il veut pas monter. Amarlo Akadosh Baruch Hu, imata ole en lecha yerida. Hachem lui dit, si tu montes, tu ne redescendras pas. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as un statut à part. Velo velo ala. Et Yaakov n'a pas eu confiance et il n'est pas monté. OK. Alors, un des deux de Rabbanim qui ont parlé jusqu'à présent, ce Rav Shmuel Bar Yonsena, il continue. Et il est Doresh, un passouk dans Tehilim, dans le Tehilim 78, c'est un long Tehilim qui raconte toute l'histoire de lui, en quelque sorte. Et il est Doresh, un verset dans ce Tehilim, là, qui dit, ובכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. Pasuk d'abord dit, avec tout ce que je leur ai montré au Bnei Israël, tous les miracles que j'ai faits, etc., ils ont continué à pas me faire confiance. Et Hachem, dans la Torah, c'est écrit plusieurs fois, beaucoup il dit, jusqu'à quand est-ce que vous ne faites pas confiance avec tout ce que je fais pour vous, c'est... Ça sert à rien, quoi. Ne me faites pas confiance. Donc, lui, il a été Doresh, ce verset, qui est, comme d'abord, il est au pluriel, hein. Chatou od, a priori. Mais lui, il a été Doresh, ça, sur Yaakov. Il a pris ce verset. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me fais pas confiance. Et donc, il dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hachem dit à Yaakov, Ilu alita ve'emanta, si tu étais monté et tu m'avais fait confiance, lo haitalcha irida leola, tu ne serais jamais redescendu. Et là, mais, hoil ve'lo emanta, mais puisque tu ne m'as pas fait confiance, alors hare vanecha, Mishta'abdin, Baalelu, Arba Malchuyot, Baolamazé. Alors tes descendants, ils vont être, Mishta'abdu, normalement c'est un verbe qui veut dire sont réduits en esclavage. Parmi les quatre peuples qu'on a vu monter et descendre. Alors quel genre d'esclavage? C'est un peu particulier, c'est pas. L'esclavage en question, c'est Bémissim ou Béarnouniot ou Bégouléliot. C'est-à-dire, en vérité, c'est quoi l'esclavage en question? C'est des impôts que vous devrez payer, toutes sortes de taxes. Taxes foncières et taxes per capita, par tête de pipe, etc. C'est ça l'esclavage, hein. Pas terrible, mais. Bon, ça veut dire que quand vous payez des impôts, vous pouvez considérer que c'est un esclavage, hein. Alors, Yaakov Avinu, quand il a entendu ça, il lui a dit, Yachol Leolam, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce qu'on sera toujours esclave de ces peuples-là pour l'éternité? Amarlo, alors lui, il a repris le verset qu'on a déjà vu de Yirmiya, Altirav dit Yaakov, Valtechat Israël, n'aie pas peur, je vous libérerai. Je libérerai les gens qui sont même au loin, qui sont exilés, loin dans ces peuples, etc. Et de. Alors, c'est pas très clair si de la Gaule et de l'Espagne et d'autres pays encore. Mais comment est-ce que je vais vous libérer? De quelle manière est-ce que vous serez libéré? Alors, ici, dans ce Midrash Tanhuma, ce qui vient là, hein, c'est difficilement compréhensible, mais il faut penser que ce Midrash, il est là parce que, à cause du rêve, mais la fin, elle s'entend beaucoup mieux, ou du coup là-bas, on ne sait pas pourquoi on parle du rêve, dans Emor, dans Parshat Emor. Dans Parshat Emor, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Péah. Il y a une mitzvah de, quand on, par exemple, quand on moissonne, il y a une mitzvah de ne pas moissonner la totalité du champ, mais de laisser des pans, des coins du champ à la disposition des pauvres, pour que les pauvres puissent venir se servir. Et d'une certaine manière, cette partie du champ, elle, c'est pas, c'est à moi et je te laisse prendre. Ça leur appartient à eux. C'est-à-dire que si le propriétaire venait à moissonner ces coins-là, il est un voleur. C'est pas seulement qu'il leur a pas donné les choses qu'il fallait leur donner, mais il a un titre de voleur parce que ça leur appartient. Ça appartient aux pauvres. Donc il y a cette idée de ne pas moissonner, de ne pas prendre pour soi la totalité, de penser aux autres. C'est le même type de mitzvot que Leket Shikra dans EPA. Leket Shikra, ça veut dire aussi quand on moissonne, et si on a oublié les épis, on a bien oublié les gerbes, on n'a pas le droit de revenir en arrière pour les prendre. Faut laisser ça pour les glaneurs, faut laisser ça pour les pauvres. Et donc il faut savoir que le Midrash, dans le Midrash Rabbah, il est dans la Parashat Emor, dans la partie de Parashat, sur les psukim qui parlent de la mitzvah de Péah. Ça, on comprend un peu mieux. Comment est-ce que Hachem va libérer les Bnei Israël qui sont esclaves, enfin, qui sont soumis au peuple, qui n'ont pas du tout l'intention de les libérer? Eh bien, Hachem dit, Veshav Yaakov mi Bavel, Yaakov reviendra de Bavel, Veshakat mi Madaï, Shanan mi Yavan, Ven Macharid mi Edom. Ils vont revenir, et personne, ils sont tranquilles et sans crainte de là où ils étaient. Pourquoi? Ki Yeseh Chala Bechol Agoyim, Asher Afitzotecha Sham. parce que je détruirai totalement ces peuples parmi lesquels vous avez été exilés. Be'umot donc ces peuples-là, she'en qui eux détruisent complètement, ça prennent totalement pour eux leur champ. Ils moissonnent et ils ne laissent rien pour les pauvres. Aval Israël, she'en mechalin et tsalotehen, alors, ve'otra, lo'esechala. Toi, je ne te détruirai pas tout à fait, pas totalement. C'est pas que tu vas t'en sortir avec rien du tout. Et la meyasreka beisurin baolamazé. Et mais qu'est-ce que je vais t'éprouver avec des épreuves dans ce monde-ci? Bishvil pour te laver de toutes tes fautes, de telle sorte que tu sois propre pour accéder à Olam Haba. Et le texte termine, le kach ne'emar v'yachalom. C'est pour ça qu'il a rêvé. C'est ça la raison pour qu'il a rêvé, pour laquelle Yaakov a rêvé, dit le Midrash. C'est pour mettre en place son histoire, quoi. Mais c'est assez terrible. Parce qu'Abraham Avinu, il a choisi, parce qu'on l'a dit, tu choisis entre la peste et le choléra, il a choisi l'exil parce qu'il pensait. Mais chez Jacob, c'est pas présenté comme un choix entre deux mots, quoi. Hachem lui a dit, fais quelque chose, et il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire la situation du clan Israël. À partir de Yaakov, c'est un clan Israël qui vit à la suite d'un manque d'émouna, d'un manque de confiance de Yaakov. C'est-à-dire le patriarche Yaakov, il a, d'après ce texte-là, manqué de confiance en Hachem. Hachem lui a dit, il va rien t'arriver, et il n'y est pas monté, quand même. Déjà, on aurait pu dire, si Hachem lui dit de monter, lui propose de monter, ben, ça ne peut pas être bien pour lui et ça ne peut pas être mauvais pour lui, sinon Hachem ne lui proposerait pas. Donc, non seulement Hachem ne lui a pas demandé d'avoir confiance à ce moment-là, mais il lui a même dit expressément, il ne va rien t'arriver. Et avec tout ça, il n'a pas l'oémine. C'est un midrash très, très dur, en quelque sorte, très, très, très grave, en quelque sorte. C'est une grosse affaire. Alors, ce midrash-là, hein, le Maharal, dans Netzach Israël, le Maharal commente ce midrash. Alors, le commentaire est assez long parce que la façon de présenter les choses du Maharal, c'est comme ça qu'on parlait. Il parlait de façon, à cette époque, on parlait assez en longueur, quelque part. Alors, il cite le Midrash et il dit, Pirouche, Sod Ma'amarazé. L'explication du secret, donc, de ce midrash, c'est que, à kol hu leodia lanu, ce midrash, il est là pour nous faire savoir, qui af im ein le Israël olamazé, que même si le clan Israël n'a pas de olamazé vraiment, en nerchavze chisaron, c'est pas un défaut, c'est pas un manque. Parce qu'il n'en a pas besoin. Le fait que Israël n'a pas ce qu'ont d'autres peuples, ce n'est pas un manque. Et Arba Malchuyotem, Keneged, alors, ça c'est la théorie du Maharal. Les quatre royaumes en question correspondent aux quatre Arbaruchot, aux quatre directions cardinales, comme j'ai expliqué déjà. Et je t'explique pourquoi est-ce que les quatre nations en question, elles se correspondent aux quatre directions cardinales. Et pourquoi est-ce qu'Israël est au centre? Il est au milieu. Parce que ce qui est extérieur, en quelque sorte, dit le Maharal, c'est ce qui est matériel. Donc les Umot HaOlam sont dans le matériel. Et le centre est spirituel. Donc la marge, c'est à l'extérieur, c'est matériel, et le centre est spirituel. Bon, c'est toute une. Bon, je ne peux pas entrer maintenant dans le détail de cette chita générale du Maharal, cette géométrie ou cette organisation du monde. Kasher Ra'a Yaakov. Aliyot Amalchuyot. Quand Yaakov a vu que les royaumes montaient, Yada chez Memsheltam Yeshlaim Sof. Il a compris que ça voulait dire que leur Memshala, c'est-à-dire leur gouvernement, leur maîtrise du monde, est limitée. Pourquoi? Parce que quand on s'élève dans le monde matériel, ben, il y a toujours un moment où ça plafonne, quoi. Parce que c'est vraiment une élévation, mais ça va plafonner. Parce que ultimement, le but ultime de ce qui est matériel, c'est on arrive à une certaine forme de perfection matérielle et ça ne va pas aller plus loin et donc ça s'arrête. Yaakov beaucoup a dit à Yaakov, Afata, allez, toi aussi monte. Pourquoi? Parce que la qualité de Yaakov, comme je l'ai dit, Mechulak Minamalchuyot, elle est différente de celle des différents royaumes, parce que Yaakov, il a quelque chose de spécial, de spécifique. C'est pour ça qu'Hachem lui dit de monter, parce que c'est sûr que monter, ça veut dire se rapprocher d'Hachem. C'est évident, parce que le haut de l'échelle, c'était la Shamaïm, c'est donc se rapprocher d'Hachem. Hachem lui dit, monte, rapproche-toi de moi, en quelque sorte. Parce que si tu montes, alors les Umot HaOlam, elles ne pourront pas te dominer. Parce que tu peux monter. Si toi tu montes, tu peux même monter plus haut qu'eux. Parce que toi, tu vas limiter. Donc, à la limite, pour éviter d'être dominé par les Motaola, il faut exceller. Il faut se rapprocher d'Hachem. Si tu ne te rapproches pas d'Hachem, alors ils peuvent dominer. Parce qu'eux, ils sont montés. Donc, pendant le moment où ils sont en haut, ils sont dominants. Hachem lui a dit. Si tu montes, tu ne redescends pas, toi. Et ça, c'est parce que Dafka, dans les quatre royaumes qui sont liés au monde matériel, en quelque sorte, et tout ce qui est matériel est par définition limité, donc il y a une fin à leur domination. Mais quelque chose qui est, comme il dit Nivdal, quelque chose qui est séparé du matériel, plus il monte, plus il se rapproche d'Hachem. C'est parce qu'Hachem lui a dit, Atta, allez, toi aussi monte. Umipnei she'en ma'alato shel Yaakov kol kach gadol. Étant donné que Yaakov, il n'est pas tellement grand, sauf ou Adam, finalement, c'est jamais qu'un homme, mais la reine Lo'ala, ou le kach Lo'ala, c'est pour ça qu'il n'est pas monté, qui aliyot agashmi, ou parce que monter dans le monde matériel, ça veut dire s'approcher de la fin. Rak aliyot Yaakov, imaya ole, aya aliyato liyot davuk bo yidbarach. Le Maharal dit que si Yaakov était monté, alors il aurait été au plus près d'Hachem, davuk, c'est-à-dire littéralement collé à Hachem. Et s'il était donc monté, il aurait eu la mida, enfin le, il aurait été dans l'état de dvekout par rapport à Hachem, velo yarad leolam, et donc il n'aurait pas pu, il aurait, quand tu colles à Hachem, tu ne peux pas tomber. Et c'est pour ça que le Midrash dit, si tu avais été, si tu m'avais fait confiance et si tu étais monté, c'est-à-dire Amamin, celui qui fait confiance à Hachem, Amamin Be'echad, celui qui m'amine dans Hachem, dans celui qui est Echad, Tavoukbo le Gamre, Hachem m'amine bo. Il acquiert la dvekout d'Hachem. C'est pour ça que sa montée, c'est dvekout le Gamre, et il redescendra jamais. Mais parce que tu n'as pas fait confiance, imken en kana dvekut bo yidbarach, donc du coup, il n'y a pas de dvekut avec Hachem. Lomar, yachem yidbarach be'atzmo ou hashlamat Yaakov. En fait, Yaakov, il a besoin que Hachem il a besoin de cette proximité avec Hachem pour accéder à la perfection. Il ne peut pas y arriver tout seul, mais Hachem va l'aider s'il s'approche suffisamment d'Hachem. Valkacher lo alita, mais puisque tu n'es pas monté, le kach lo davak, Isaïabo Yaakov, Macheraou Eliot, davouk, Boidbara. Donc il n'y avait pas chez Yaakov ce qu'il aurait dû y avoir, cette dvekout. Et donc, du coup, il est séparé de la cause première, donc d'Hachem. Et pour cette raison, les peuples peuvent le dominer. Ce qui n'aurait pas été le cas. C'est un peu lourd, maintenant. Enfin, disons, toute référence gardée. Pour que effectivement il soit parfaitement vivant, pleinement actif, c'est ce qu'il aurait dû faire. Toujours c'était si ilou et manta ve'alita. Parce que la emouna, b'Hashem, c'est la dvekout. C'est ce qui nous approche de lui. Et du coup, puisque toi, tu t'es pas approché, alors tes descendants, ils sont aussi éloignés d'Hachem, et ils sont pas vraiment, n'existent pas pleinement comme ils pourraient l'exister, ils pourraient exister. Et donc, ils sont susceptibles d'être dominés par les malchouyot. Comment? Bemissim, marnouniot et goulgouliot. Parce qu'il leur manque cette élévation. Et donc ils sont pas parfaits, donc ils sont dominés. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur prendre leur argent, c'est-à-dire quelque part, ils vont être empêchés de faire tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils auraient pu faire avec leur argent parce que on leur enlève les moyens, l'argent ici est prévu comme le moyen de faire des choses. Donc, il y aura moins de moyens pour faire les choses. C'est un peu la même idée que quand on parle de la lutte de Yaakov Avinu avec l'ange, et qu'on dit que l'ange, donc l'ange des sables, il a déhanché, quoi, quelque part. Ça veut dire que la partie basse, qui est le soubassement de la partie haute de l'être humain, elle n'est plus vraiment au bon endroit. Donc, si on veut, elle ne supporte pas au maximum. Quelque part, il ne bénéficie pas de tout le support. Et le support, c'est les biens matériels, la partie matérielle. Donc, ce que l'ange des sages a fait à Yaakov, c'est qu'il lui a dit, ah, ben on va voir si tu es si bien que ça, si on ne te donne pas tous les moyens. D'accord? Si effectivement tu n'as pas tous les gens qui te soutiennent, le soutien ne sera pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. Jusqu'à présent, tout a très bien marché. Bon, c'est Hachem à veiller à ce que tu manques de rien, etc. Maintenant, on va voir ce qu'il en est. Comment tu vas te débrouiller si tu n'as pas le soutien complet des juifs qui étudient pas, mais qui doivent soutenir les Kohanim, enfin ceux qui étudient, quoi. Alors il dit, comment est-ce que effectivement je serai libéré? Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit avec la mitzvah de Péa. Donc ça, c'est comme ça que le Maharal a entendu ce midrash. Et toujours est-il que quelle que soit la façon de le lire, c'est très sévère pour Jacob. Le Rav Dessler, lui aussi, il a ramené ce Maharal et bon, il lit le Maharal un petit peu différemment. Enfin, je le dis en tant que moussard. Donc, il traduit ce que vous avez lu sur le Maharal. Le Maharal dit que à ce moment-là, il a manqué quelque chose au niveau de Dvekout chez Yaakov, ce que le Sacre Maharal a dit. Alors que s'il y avait eu cette Dvekout, alors il ne peut plus y avoir de chute, etc. On ne peut plus se séparer de l'Hachem. Alors il dit, en vérité, c'est à ce moment-là, alors il faut se souvenir, ce rêve, il a lieu quand? Yaakov, à ce moment-là, il est au début de sa trajectoire. Là, il est en train de fuir la maison paternelle parce que Esav veut le tuer. Non? Et il va chez son oncle, Laban, où il va se marier, avoir des enfants, et aussi se refaire une santé matérielle, puisque en chemin, Eliphaz l'aura dépouillé. Je vous ai expliqué. Donc il va se construire complètement. Et quand il va revenir de chez Laban pour rentrer chez son père, alors que, à part enfin, pratiquement tous les enfants sont nés, alors, quand il revient, le passouk dit, Vayavo, Yaakov Shalem. Yaakov est arrivé à la ville qui s'appelle Shalem, qui est l'ancêtre de Yerushalayim. Bon, c'est la ville dont Shem était le Kohen Gadol, Kel Elyon. Il était le roi là-bas. Mais ça veut aussi dire qu'il est arrivé Shalem, c'est-à-dire entier, complet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est arrivé à la Shlemout, Yaakov. Il est arrivé à la perfection. Il est là, tout est là. Mais ça, c'était après, quand il revient. Il arrive à chaque, quand on dit qu'il est arrivé à Chanel, c'est après qu'il se soit prosterné cette fois devant son frère en l'appelant Adoni, 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 d'accord? Où il a installé en quelque sorte Essav comme son maître. Donc il a installé le galout de Edom. Donc c'est trop tard maintenant. Il ne peut plus maintenant, par la Shlemout, échapper au galout parce qu'il a déjà mis en place le galout. C'est pour ça que les Chachamim sont tellement fâchés contre Yaakov quand il s'est tellement, tellement abaissé devant Esav, qui lui a donné du Monseigneur, 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 etc. Chachamim, ils n'aiment pas ça du tout. Mais enfin, c'est ce qu'il a fait. Et du coup, d'atteindre maintenant la Shlemout. Shlemout, ça veut dire Dvekout, d'après le Maharal. Donc, quand tu as la Shlemout, tu ne peux plus tomber. Mais il a déjà donné le pouvoir, donc il n'y a plus de domination possible des Umot HaOlam. Mais lui, il leur a donné, il a donné à Edom la domination finale. Donc, ici, le Rav d'Esther, il dit c'est trop tard. Voilà, donc voilà pour ce midrash qui est bouleversant, si on peut parler comme ça, très assez terrible. Alors, sur ces Sarea Umot, c'est important de savoir exactement ce que ça représente dans la mesure où c'est là-bas qu'on va être en galoute, qu'on a été en galoute et qu'on est encore en galoute. Les fameux Sarea, les fameux anges qui montent et qui descendent, donc on peut dire qu'ils sont Sarea Umot HaOlam. Alors, je vais apporter ici un enseignement de Prime de Vologine. Alors d'abord, il y a dans la Gemara Brachot, il y a un dialogue. Bon, c'est tout un sujet qui vaut la peine de traiter en détail. Un dialogue entre ce qu'on appelle les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, et Rabbi Hanania, Yoshua ben Hanania, qui était le sage des Bnei Israël. Et donc c'est toute une histoire. Les sages d'Athènes, ils veulent montrer leur supériorité. Et donc, il pose des questions un peu complètement farfelues à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et la Gemara, elle explique, elle donne les réponses. Et il y a, en fait, des enseignements du Gaon de Vilna, pendant que Rabbi Chaim de Vologine s'inspire aussi du Gaon. Et ça, tous ces dialogues-là, avec des explications d'après le Gaon, ça a été édité, je ne sais pas si en français, mais en tout cas en anglais. Juggler and the King. C'est l'ensemble de ces questions C'est très, très bien. Baron Feldman, qui est devenu, alors, il n'était pas encore à ce moment-là, il est devenu le mashgiach de Baltimore, la yeshiva de Baltimore. Si vous pouvez se faire, ça vaut la peine. Mais bon, je peux organiser, je peux faire des shiurim d'après ça ou d'après. En tout cas, le problème de Volozhin, il ramène une question que les sabbés d'Atouna, les sages d'Athènes, ont demandé, ont posée. Ils lui ont demandé, Umilcha kisaria bemaï malchela. Ça veut dire, quand le sel, oui, le sel, si, quand il vient à pourrir, comment est-ce que on peut le rattraper? Avec quoi on va le saler pour le rattraper? Alors, la question c'était, concernant notre problème, c'était, si les fautes entraînent le galout, et que dans le galout, on fait encore plus de fautes, alors à quoi ça sert? Quel espoir est-ce qu'on peut avoir? Les Bnei Israël vont avoir une kapara si en fait on les a envoyés. La sanction, c'est vous êtes en galoute, mais en galoute, on fait encore plus de fautes. On ne va jamais se rattraper. Alors, la réponse de Rabbi Yoshua ben Hananias, ça a été on traite ce problème, le sel qui a pourri, pour le rattraper, on va le traiter avec du placenta de mule. Alors ils lui ont dit, mais est-ce qu'il y a du placenta pour une mule, c'est stérile. Donc il n'y a jamais de placenta. Voilà. Est-ce que vous avez compris, hein? Il leur a dit, mais est-ce que le sel peut pourrir? Donc votre question est débile, je vous ai répondu. Mais Abdeslar, il l'explique que pas seulement en termes de placenta qui n'existe pas, lui il veut dire que le placenta de la mule, ça veut dire, ça parle de ce qu'on appelle Hevelé Haleida d'une Akara. Est-ce qu'une femme stérile peut avoir les douleurs de l'enfantement? S'il y a, mais ils veulent dire comme ça, s'il y a les douleurs de l'enfantement, alors ça veut dire qu'elle n'est pas stérile. Sa réponse était ça. C'est-à-dire, de la même manière que le sel ne pourrit pas, ne pourrit jamais, c'est-à-dire que l'alliance de sel entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, il y a un Brit Melach. C'est pour ça qu'on met du sel sur les corbanotes, etc., qu'on met du sel sur la table, etc. Et c'est une alliance qu'on ne peut pas être mevatel. Cette alliance, elle n'est jamais caduque. Et même si les Bnei Israël ne font pas tchouva, il y a une solution. La solution, c'est ce qu'Hachem a dit, la Gemara dans Sanhedrin, qui dit, quand je vous dis, Anima amid lahem melech, chez Xerotav kashot me Aman, ou que Aman, j'enverrai un roi dont les décrets seront plus durs que ceux d'Aman, ils feront tchouva. Sous cette pression, ils feront tchouva. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils n'ont rien dans la Mazé, comme le Maharal l'avait dit. Mais il va se, même dans cette situation où il y a pratiquement lieu de désespérer, il va se dévoiler à Nekouda, limite du clan Israël. C'est-à-dire, l'intériorité finale, ultime du clan Israël, va se dévoiler. Vim gam efshar shema yachid tiabed. Parce que shalom de Kuda anshama israélite. Il est vrai, il est possible que chez certains individus, ils se perdent. Les traces de la Torah en lui se perdent. Ça existe. Mais il y a une haftacha, une promesse, que dans le clan Israël, la Nekouda Pnimit, l'âme du clan Israël, elle ne sera jamais perdue. C'est pour ça que le clan Israël, c'est intemporel, ça peut pas, ça ne disparaît pas. Les individus peuvent disparaître. Hachem dit dans les Klalot, Hachem dit, l'homme est estime le chalotam. Parce que je les ai jamais, ils m'ont jamais dégoûté. Je les ai jamais vomis au point de les détruire complètement. Ce mot de le chalotam, c'est la chaîne colle, tout enlevé. C'est ce qu'on avait dans le Midrash, où il dit, les goyim qui détruisent complètement leur champ, au sens où ils prennent tout pour eux. Ils ne donnent rien aux pauvres. Et les bnei Israël qui donnent aux pauvres. Donc il reste quelque chose. À l'échelle du clan Israël, ça reste. Même s'il y a des individus qui ne respectent pas les halakhot de péot, de péa dans leur champ, etc. Mais le clan Israël, en tant que tel, il respecte. Ça veut dire que le processus des fautes qui entraînent des fautes, dont on a parlé au début, là, bon, des fautes qui entraînent le galout, mais la galout entraîne d'autres fautes, il va être interrompu par la dureté du galout. Il y aura un moment où les gens, ils comprendront, c'est là, il faut qu'on fasse, tu vois, c'est fichu sinon. Sauf à Galout, il y avait le tchouva. La fin du Galout amènera à la tchouva. Alors oui.
Est-ce que lorsque les Israël en Égypte sont du coup et est-ce que ce cri est interprété comme une chouva?
Non, pas comme une tchouva, mais comme une tfila, comme un embryon de prière, quoi. Se tourne vers Hachem, quand même. Donc, ils n'ont pas arrêté d'être idolâtres, etc., a priori. Mais bon, ils ont compris que c'est pas contradictoire, les gens. On peut être idolâtre aussi parce qu'on est dans un milieu qui est idolâtre et on n'a pas la force de s'arracher à ce milieu-là. On est influencé par un milieu, on n'a pas la force. Mais au fond, on voudrait bien. Et Hachem sait si on veut vraiment. Il sait, oui, tu veux, tu n'as pas la force. Et tu voulais vraiment, probablement, que tu y arriverais. Mais bon, tu veux, mais ce n'est pas un vouloir suffisamment fort pour l'emporter, finalement. Mais il y a de la prière, déjà. Un commencement de prière, un cri. Le cri comme début de prière. D'ailleurs, par exemple, quand Moshe Rabbeinu nous prie avant le passage de la mer, Hachem lui dit, Matitsak Elai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Il n'y pas, il priait. C'est de toute façon, c'est crier au secours, quoi. C'est crier vers Hachem. D'ailleurs, bon, c'est possible que la. On dit qu'au départ, quand ils construisaient, quand Abraham, Avinu, etc., construisaient un misbéach, ils amenaient un corban, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils criaient le nom d'Hachem. Vaïkra b'shem Hachem. Ils crient le nom d'Hachem. C'est tout. C'est pas obligatoirement des demandes, mais crier, savoir que. Ouais. Quand on crie au secours, on n'a pas besoin de faire une phrase. Les gens qui appellent leur mère au moment où ça va pas, et ils disent pas, il n'y a pas une phrase, simplement ils crient le nom de leur mère. Alors Ephraim Zvolozhin explique, il dit comme ça, Yadua chez Galut Mitzrayim, on sait que dans le Galut Mitzrayim, Ayou, allou avdé avodah zara, allou avdé avodah zara. Ici, il cite ce que les anges ont dit. Il dit, il parle sur Galut Mitzrayim, c'est précisément même au passage de la mer. Quand Hachem a noyé les Égyptiens, les anges de service ont dit, ont crié au scandale. Ils ont dit, mais quoi, tu noies les Égyptiens parce qu'ils sont idolâtres, mais les Israélites sont idolâtres aussi. Et Hachem, il n'a pas de réponse tout à fait gagnante. Ce qu'il va répondre, la seule réponse que je connaisse, mais qui, en fait, d'une certaine manière, si on peut se permettre de dire ça comme ça, ne tient pas la route. Hachem a répondu que ceux-là, les Israéliens, ils vont accepter la Torah. Alors, bon, la réponse est jolie. Seulement, il y a une règle générale. Vous connaissez, je vous rappelle juste d'où elle vient, cette règle, où elle a été dite. Quand Agar a été chassée par Sarah, elle était avec son fils Ishmaël. Et Hachem a fait un miracle. Il y a eu un puits, il y a eu une source d'eau. Il n'y avait plus d'eau, ils allaient mourir. Hachem lui a montré une source d'eau. C'est marqué que les Malachim en haut, ils ont dit, mais tu es en train de sauver ce gosse-là? Donc, alors que les descendants, ses descendants, ils vont pomper les Israël, ils vont les, exactement de cette même manière, ils vont les faire mourir de soif. Les Chazal disent que quand les Israël étaient dans le désert, à un moment donné, les Arabes sont venus et, soi-disant, ils leur ont apporté du poisson salé et des outres pour boire. Donc, ils ont mangé le poisson salé. Quand ils ont voulu boire, les outres, elles étaient pleines d'air. Donc, ils les ont assoiffés. Ils étaient déjà assoiffés. Comme ça, ils leur ont fait encore plus soif avec le poisson salé. Et ensuite, ils les ont trompés. Il n'y avait rien dans l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans les outres. Les anges disent, pas normal. Tu sauves Ishmaël qui est en train de mourir de soif. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ses descendants? Ils vont faire mourir de soif tes enfants. Alors Hachem a répondu, cet enfant maintenant, Ishmaël, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? Il s'agit de le juger maintenant. Maintenant, il est un enfant. Il est un tzaddik. On le juge, ça s'appelle Ba'asher ou Sham, comme il est au moment où on le juge. Et c'est la règle générale, c'est qu'on juge les gens Ba'asher ou Sham. Si Hachem, à Yom Kippour, il nous jugeait en tenant compte de ce qu'il sait, de ce que nous allons faire après Yom Kippour, de toutes les promesses, etc., qu'on est en train de faire le jour de Yom Kippour, les tous les engagements, etc. Mais Hachem, il sait très bien que la durée de vie de ces engagements, elle n'est pas obligatoirement très éternelle, quoi. Et donc, si Hachem en tenait compte, on ne serait jamais jugé positivement. Mais on juge, bah, Sher ou Sham. Moment, je suis sincère. Si on est sincère au moment où on est jugé, alors, la recherche à la, au moment d'être quiote, c'est là qu'on est jugé. Si on est sincère à ce moment-là, on est jugé positivement. Hachem sait très bien que ça va pas durer très longtemps obligatoirement. On ne tient pas compte de ça. Donc le jugement, c'est toujours Bachar ou Cham. Comment ça se fait qu'Hachem, il les sauve? Parce que demain, ils vont accepter la Torah. Mais maintenant, ils sont idolâtres. Enfin, je vous dis, la réponse d'Hachem, elle est... C'est vrai, mais a priori, ce n'est pas une bonne réponse juridiquement. Begalut Bavel, quand les Bnei Israël étaient en Bavel, il y a eu Nassou Nashim Nochriot. Il y a eu énormément de mariages mixtes. Bon, c'est le problème qu'avait Ezra quand ils sont arrivés. Il a fallu trier, comme dit la Gemara dans Kiddushin, il a fallu trier les femmes, quoi. Et néanmoins, Hachem a sauvé ceux-là bien qu'ils soient idolâtres et ceux-là bien que il soit marié avec des femmes étrangères. Avalanach, en vérité, le problème, c'est que nous, on est d'une certaine manière en ce moment sous Édom, mais l'ange d'Édom, c'est le Malach HaMavet, c'est le Satan. Asher anachnu be'atzmeinu mosifim lo koach b'chol avon v'chet prati. Nous, avec toutes les fautes qu'on fait, on donne de la force au Yetzerara, au Malach HaMavet, à la mort. Chazal disent que Akadosh Baruch Hu ne punit un peuple que après avoir puni d'abord son prince, celui qui le représente. C'est la culture, enfin, il faut détruire d'abord la culture, etc. Vimken begalutaze, ertiyen filatasar. Et Raphaël de Bologine dit, mais dans le galout dans lequel nous sommes, c'est le nôtre, quoi. Comment imaginer que le prince d'Édom va tomber, va disparaître? Alors, étant donné que nous lui donnons en permanence de la force, avec toutes nos fautes, bon, ça va pas marcher. On ne peut pas être sauvé parce que le Yetzirah, le peuple d'Édom, ben, Hachem a dit, le peuple d'Édom, je vais le... On a vu dans le Midrash, lui aussi, je vais le faire disparaître. Mais il ne va pas disparaître. Est-ce qu'on ne peut pas détruire son peuple, son tsar? Parce que nous, les Bnei Israël, on lui donne de la force tous les jours. Alors là-dessus, Rav Dessler, qui compte. De ici, il dit, c'est un fondement que chaque peuple a une façon bien à lui de, qui est la résultante de mélange de midot et de force d'âme ou de faiblesse d'âme ou de etc. de bonnes midot et de moins bonnes midot. Et Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est important. Akadosh Baruch Hu, à quoi servent les peuples finalement? Ou mishtamesh ba'umot kechavalim bien que Kélim, je ne sais pas si c'est bien imprimé. La saga de Tachlit Abriya Atluya b'Israël. Depuis qu'Abraham Avinu s'est engagé, le destin du monde dépend des Bnei Israël. Donc, les choses dépendant du clan Israël. Alors, les autres peuples, ils sont en vérité dépendants d'Israël. Bien, ils sont, Hachem les utilise pour faire pression de diverses manières sur le clan d'Israël pour que le clan d'Israël arrive à bon port. Parce que quand le clan d'Israël sera arrivé à bon port, alors on dira l'humanité a réussi. C'est toute l'humanité. Le Mashiach ne vient pas pour aimer Israël seulement. Il vient pour le monde entier. Donc, quand on aura réussi, le monde entier sera réussi. Et donc, Hachem utilise les Omotaolam parce que c'est leur intérêt que les Bnei Israël réussissent. Et donc, il utilise chaque peuple avec ce qu'il a de spécifique. C'est pour ça qu'il y a cette diversité de peuples, parce que c'est une diversité d'action sur les Bnei Israël pour les façonner, pour les obliger à prendre certaines décisions. C'est ce que Chazal disent que voilà, c'est à ça que servent les peuples, en fait. Alors, il y a dans les Midot, bon, lui, maintenant, c'est pas mon sujet maintenant, mais dans les Midot, elles se regroupent en deux grandes catégories, qui est la catégorie de la Tahava, du désir, et la catégorie de la Gaava, de l'orgueil. Alors, la grande différence entre les deux grandes catégories, c'est que ce qui est de l'ordre de la Tahava, c'est-à-dire du désir, c'est limité parce que les forces du corps sont limitées. Le corps, il peut pas, on peut pas, le corps, il n'est pas capable de marcher dans tous les fantasmes que les peuples, que les midot des peuples peuvent les amener à inventer. Et dans la Gaava, dans l'orgueil, il n'y a pas de limite. Lorsque un homme désire quelque chose, il veut manger. Bon, alors effectivement, lorsqu'il est rassasié, complètement rassasié, ben, il arrête de manger, le désir tombe. Il n'y a plus. Même celui qui mange un peu, qui boit n'importe quoi, etc., il y a des limites. Au bout d'un certain moment, son corps refuse de continuer. Dans la Gaava, celui qui a l'orgueil, qui a de l'orgueil, il n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que la Gaava, c'est s'imaginer se prendre pour Dieu. Donc, tout doit être possible. Ça, c'est sans fin. C'est aussi, si je suis Dieu, alors on est très monothéiste. Si je suis Dieu, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. D'accord? Donc, les autres, c'est zéro. Ils sont tous à mon service, je peux en faire ce que je veux. Donc ces deux tendances, en quelque sorte, qui existent avec toutes sortes de degrés de mélange dans les peuples, vont servir à guider le clan Israël là où Hachem veut qu'il aille en réalité. Or, Akadosh Baruch Hu se conduit avec le monde de la même manière que les Bnei Israël se conduisent avec le monde. Hachem Silcha. Pasouk dit, Hachem est ton ombre. Donc ça dépend de nous. C'est bien sûr que quand on dit que ça dépend de nous, c'est Hachem a voulu que ça dépende de nous. Il veut que ça dépende de nous. Donc ça nous donne une responsabilité absolument gigantesque. Et donc toute cette histoire de galoute, Ben, il faut comprendre que il est fondamental, justement, que on comprenne que ces galouillottes doivent nous mener quelque part. Donc, évidemment que les différents peuples chez lesquels nous sommes en galoute, ces peuples-là sont dirigés par Hachem. Bon, et donc, ils servent, quand Hachem veut influencer le clan d'Israël, il a décidé que ça allait passer par les Umot HaOlam. Pas qu'Hachem va intervenir directement chaque fois. Mais d'un autre côté, on dit que le cœur des rois et des puissants est dans la main d'Hachem. Les rois et les puissants, ça veut dire ceux qui dirigent les peuples, qui sont dirigés en fait par Hachem. Alors, bien sûr que c'est différent, difficile, il y a des moments où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment Hachem veut que ça se passe comme ça? Mais oui, c'est comme ça. Parce que ça veut dire que nous avons créé une situation où pour nous amener là où Hachem veut nous amener, on a besoin de nous faire cette violence-là, nous imposer cette situation-là. Mais ça dépend de, c'est qu'en fait, c'est un choix que nous avons fait. Seulement, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours, c'est un peu difficile parce que on comprend pas toujours en quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que le clan d'Israël a fait pour que le bâton soit aussi dur que ça? Pourquoi est-ce que... Mais c'est que, premièrement, on n'a aucune idée de l'échelle des valeurs. On ne sait pas. Et puis, le problème, c'est que ce qui fausse aussi les choses, c'est qu'on ne sait pas non plus quelle proportion du clan d'Israël doit se comporter comme Hachem veut qu'il se comporte pour qu'on considère que l'opération a réussi. C'est presque sûr qu'on n'a pas besoin que tout le monde le reconnaisse tout de suite. Mais combien? Combien? Un rov, majorité, combien? L'autre chiffre du clan d'Israël, c'est 22 000, en tout 22 000 juifs qui font exactement ce qu'il faut. Il n'y a pas 22 000 juifs qui font ce qu'il faut aujourd'hui. Donc, 22 000, c'est Revavot Alfei Israël. Revavot, c'est deux myriades, c'est-à-dire 20 000. Alfei Israël, c'est 2 000. C'est 22 000. Bon, c'est dans le fameux passouk qu'on dit au moment de la sortie de la Torah. Vaï binso Aaron, etc. Kumo Hashem, etc. Donc voilà, c'est le plan d'Israël, c'est d'après ça, c'est 22 000. Le problème des 22, c'est que c'est aussi le nombre de lettres de l'alphabet, donc c'est aussi toutes sortes de... Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, on va s'arrêter là.